Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste.
On a des choses qui sont peut-être parfois moins visibles ailleurs, là où des conflits parfois sont réglés et souvent ont été réglés à nos dépens par la classe des dominants ou des gouvernants. Le fait qu'en Palestine le conflit soit toujours vivant et toujours vif et voilà, et toujours présent fait que il y a encore des choses qui nous amènent à réfléchir. Et donc ces choses-là qu'on peut voir en Palestine, on les voit peut-être moins ailleurs ou peut-être qu'elles sont moins faciles à dire ailleurs. Et parfois de passer par le cas palestinien ou d'autres cas comme ça à travers le monde permet de mieux formuler dans nos têtes et peut-être dans le discours aussi qu'on porte.
La voix que vous entendez est celle de Taher Labadi. C'est le deuxième épisode que nous faisons avec Taher. On va reprendre une partie de l'introduction et continuer à parler d'économie, mais en se focalisant sur les stratégies coloniales qui soumettent une économie à une autre, qui soumettent l'économie palestinienne à l'économie israélienne, et comment cela essaye d'entraîner la soumission d'une population à une autre, ou bien son départ. On parlera aussi de la mise en grande difficulté et précarité des travailleurs palestiniens, ainsi que de cette relation coloniale qui à la fois met en grande galère les Palestiniens et Palestiniennes et qui aussi donne quelques miettes aux Palestiniens et Palestiniennes pour éviter toute révolte, toute conscience politique. Et je vais laisser Taher se présenter.
Ben, bonjour, moi c'est Taher, donc je suis palestinien, j'ai grandi en France. Fait mes études en France et je suis revenu, je suis venu en Palestine il y a de ça 4-5 ans maintenant en tant que chercheur en économie politique. J'ai fait mes études, une thèse en économie et j'ai donc poursuivi dans ce domaine-là, le domaine universitaire. À travailler et à m'intéresser sur des questions d'économie politique liées à la Palestine et à la région un peu plus dans son ensemble.
Alors vous êtes bien dans l'émission Portrait d'un colonialiste, l'émission radio qui essaie de comprendre les rouages et les stratégies du colonialisme toujours à l'œuvre aujourd'hui et qui essaie de donner à écouter les témoignages de personnes qui vivent sous ce régime colonial. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Palestine et du colonialisme de peuplement. Alors le colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme dont le but est de voler, on va dire, la terre des personnes présentes donc sur cette terre. Donc au final, de remplacer la population présente sur cette terre. C'est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, en Australie ou pendant l'Algérie française. C'est bien ça, je fais une bonne définition?
Oui, c'est ça, colonialisme de peuplement, qu'on dit aussi colonialisme de remplacement parfois, avec effectivement cet objectif-là de remplacer la société locale par une société de colons arrivés d'ailleurs.
Du coup, moi je voulais commencer par un peu d'histoire. Du coup, je fais juste un petit rappel que c'est dans l'ambiance de la fin du 19e siècle, début du 20e, donc vers 1900, que les sionistes, des nationalistes bourgeois juifs d'Europe centrale, commence à militer auprès des nations coloniales, comme l'Angleterre, pour la création d'un État juif. Alors, il y a quelques hésitations au début sur la région, ils hésitent à aller vers l'Ouganda, mais la déclaration de Balfour en 1917, qui annonce le soutien des Britanniques à un projet sioniste en Palestine, fait que les sionistes mettent tout leur effort à la colonisation en Palestine. Donc on pourrait un peu dire, j'ai l'impression que c'est le point de départ d'un colonialisme de peuplement. En Palestine, moi j'ai un peu lu un texte de Hassan Kalafani qui s'appelle « La révolte de 1936-1939 en Palestine ». Donc il parle de ces révoltes, mais aussi de ce qui est mis en place après 1917 avec le colonialisme anglais, sous le mandat britannique du coup. Il parle des différentes stratégies, notamment économiques, et notamment des sionistes et des anglais, pour écarter les Palestiniens des questions économiques qui les concernent à différents niveaux. Du coup, moi, ce que j'ai compris un peu, c'est que les sionistes, ils ont créé de leur côté des organes pour s'installer en terre de Palestine et remplacer les Palestiniens, donc aussi remplacer leur secteur économique Dans le texte de Calafény, il y a plein de choses qui sont racontées, un peu comme ce que tu as fait juste avant, et aussi qui sont analysées par Kanafali. Dans les textes de Calafany, il raconte par exemple pas mal de personnes qui sont expropriées et privées de leurs terres, les Palestiniens, et qui cherchent des moyens de subsistance et qui sont un peu obligés de partir à la ville. Et qu'on retrouve énormément de personnes qui ont perdu leurs terres, qui sont des personnes qui sont employées dans le ramassage des ordures de la ville. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur la stratégie un peu qui est à l'œuvre de 1917 à 48?
Déjà, je pense que le rappel, ton rappel, il est important parce que c'est important déjà de rappeler qu'on est dans un jeu à trois au moins. À trois, c'est-à-dire que les Britanniques ont aussi leur rôle et leur place dans ce qui est en train de se dérouler à ce moment-là. Je dis ça pourquoi? Parce que les Britanniques ont eu tendance à raconter ce moment comme un moment où eux étaient là en tant que force mandataire, un peu comme une force neutre, à essayer de concilier les intérêts et les attentes de deux parties, que sont d'un côté la population arabe palestinienne et de l'autre côté la population des...
Je me permets juste de couper et justement de citer une phrase que j'ai trouvée de Kanafani, qui est « La Grande-Bretagne fut convaincue qu'elle devait se lier aux sionistes qui la mettaient dans une situation unique qu'elle n'avait eue dans aucune colonie, celle d'avoir à sa disposition une force faisant cause commune avec le colonialisme britannique et fortement mobilisée contre la population locale. »
Alors c'est ça, c'est que l'intérêt du texte de Kanafani, c'est de montrer comment il y a une connivence entre deux de ces parties, donc la partie britannique et la partie sioniste. Mais effectivement, en même temps, elles sont distinctes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Britanniques qui arrivent donc avec une force militaire, qui conquièrent la Palestine ottomane et qui vont, à l'époque, obtenir de la Société des Nations un mandat qui leur donne la responsabilité de mener la population vers l'autodétermination. Il y a plein de mandats qui sont accordés comme ça à la France et à la Grande-Bretagne à l'époque. La particularité du mandat sur la Palestine, c'est que au lieu d'accompagner la population palestinienne vers l'autodétermination et l'indépendance, ce qui va se passer, c'est que le texte du mandat donc donne mandat aux Britanniques d'accompagner le mouvement sioniste vers l'autonomie en Palestine avec la fondation d'un État national, d'un foyer national, pardon, pour le peuple juif. Donc on a ce mandat déjà qui pose un cadre, qui désigne les populations arabes palestiniennes comme la population non juive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur statut politique et de leur existence politique, population non juive dont il faudra protéger les droits civiques et religieux, civils et religieux, pardon. Mais donc, il n'y a pas de mention d'une quelconque reconnaissance politique. Donc ça, c'est pour le cadre. C'est la partie britannique qui va ensuite gouverner la Palestine donc jusqu'en 1947. 48, pardon. Et de notre côté, on a donc le mouvement sioniste qui se forme en Europe et qui, depuis l'Europe, se dote d'institutions et d'organisations qui ont pour vocation d'aller matérialiser ce projet sioniste en Palestine. Et parmi ces institutions, donc il y a l'agence juive qui fait office d'un espèce de cabinet de gouvernement, mais il y a aussi le Fonds national juif qui a pour objet d'aller acheter des terres, un maximum de terres en Palestine qui vont donc servir de base, de fondement à la création de ce foyer national.
Et juste du coup pour les dates, là on est, c'est à quel niveau les créations de ces institutions?
Quand je parle de l'agence juive ou du foyer national juif, on est encore à la toute fin du 19e, début du 20e, alors que la Histadrout, elle se crée au début des années 20, donc au moment après l'arrivée des Britanniques déjà. Et donc avec déjà un début de société de colons un peu plus important.
Du coup, pardon, du coup, tu disais l'Histadrout, c'est un syndicat, c'est ça?
C'est ça, c'est un syndicat des travailleurs et ça va être important là pour pouvoir expliquer justement ce rôle. Donc la Histadrout, par exemple, qui est là pour protéger le travailleur juif, en fait, va avoir comme obsession systématique d'exclure le travailleur arabe. Et c'est pour ça qu'il a été créé, en fait, d'exclure le travailleur arabe de l'économie en Palestine.
Pourquoi? Parce que il va, et c'est pour ça qu'il est créé, c'est qu'il va se, il va se faire que parmi les colons juifs qui arrivent en Palestine, certains donc sont constituent une bourgeoisie, viennent pour investir en Palestine, et il se trouve qu'ils vont commencer à embaucher une main-d'œuvre palestinienne arabe moins chère. Et parfois plus efficace aussi dans le travail de la terre, dans les orangeraies qui vont se créer à ce moment-là, etc. Donc il y a un début d'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché arabe, voilà, qui vont pouvoir payer moins cher. Et ça, ça va déplaire au mouvement sioniste organisé, qui va constater qu'on a des, par ailleurs, une population juive qui arrive d'Europe, qui, elle, a besoin d'être embauchée et qui ne trouve pas de travail, qui se retrouve au chômage en Palestine et qui, petit à petit, se met à repartir en Europe. Ce qui annonçait la défaite du projet sioniste. Et donc, il va y avoir constitution de ce syndicat, la Histadrout, qui va monter des espèces de milices, qu'ils ont appelé les gardiens du travail, qui vont aller dans les entreprises juives et parfois même dans les entreprises britanniques et le gouvernement britannique pour faire pression et dire il faut que vous embauchiez, soit, donc si c'était des entreprises juives, que vous embauchiez uniquement une main-d'œuvre juive. Et donc parfois ça va aller jusqu'à, on parle de milices, donc des actes violents, casser des machines, taper les travailleurs, etc., menacer le propriétaire juif, hein, sioniste, mais en disant voilà, il faut absolument participer au projet, quitte à ce qu'on participe au financement de cette main-d'œuvre qui est juive, qui effectivement coûte plus cher parce qu'ils viennent avec des niveaux de vie et des exigences venues d'Europe. Donc on a cet objectif-là, et ce slogan, c'est un mot d'ordre en fait qui va être adopté par le mouvement sioniste du travail juif. Il y en a d'autres, il y a aussi la terre juive, donc cette volonté d'acheter des terres. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que dans n'importe quel contexte capitaliste, on pourrait se dire qu'acheter une terre, ça, c'est un acte économique. C'est-à-dire que la terre, elle ne devient pas une souveraineté politique. C'est juste une terre qu'on achète et qu'on peut revendre. Or, dans la logique du mouvement sioniste, il y avait déjà quelque chose qui arrivait très tôt, c'est de dire chaque lopin de terre qui est acheté par un juif devient une propriété inaliénable du peuple juif. Donc c'est déjà un début de souveraineté. Et c'est ces terres et ces propriétés qui vont servir d'argument ensuite pour exiger un partage de la Palestine et obtenir que, de dire en fait, voilà, on possède des terres, comme si posséder des terres, c'était signe de souveraineté politique. Donc voilà, on a des slogans comme ça, la terre juive, le travail juif, la consommation juive, on retrouve cette logique de remplacement qui, à l'époque, devait prendre le pas sur la logique d'exploitation. C'est-à-dire qu'on avait une logique d'exploitation qui était là, mais le mouvement sioniste a mis en avant la logique de remplacement, c'est-à-dire qu'on ne devait pas exploiter les Arabes, puisqu'on devait, au contraire, venir les remplacer et les exclure de plus en plus de cette économie qu'on était en train de créer et qui devait servir de base au futur État.
Ok, du coup je comprends un peu mieux à travers ce que tu as expliqué sur le mandat britannique, déjà les avantages fiscaux donnés aux sionistes pour venir, ou pour les entreprises sionistes au sein de la Palestine. Également du coup effectivement avec les gardes du travail, tout ce qui est la question du travail juif, etc. Enfin, tout ce qui est mis en place par rapport à ça, et un peu... du coup, la stratégie, c'est un peu la conquête de l'économie pour exclure la population palestinienne, quoi.
C'est ça. On a la conquête de l'économie, c'est un autre mot d'ordre, en fait, un autre slogan qui a été adopté par le mouvement sioniste. Et alors, du coup, ça me permet peut-être de revenir au texte de Kanafani. Ce qui est intéressant avec le texte de Kanafani, c'est que les Britanniques, en fait, ont commencé à faire quelque chose qui continue encore de nos jours, c'est d'essayer de séparer l'économique du politique dans leur... Et à chaque fois que les Palestiniens faisaient le lien entre la dépossession économique et la perte de leur objectif politique, c'est d'obtenir l'autonomie et la libération, les Britanniques disaient non, regardez, en fait, vous profitez économiquement de la présence d'une économie juive. La preuve, certains d'entre vous trouvent un emploi dans l'économie juive. Et puis, la présence de capitalistes juifs, en fait, est un avantage pour l'économie de la Palestine, qui, du coup, s'en trouve... Enfin, c'est du capital à porter, etc. Donc, il y a une logique de développement dont vous profitez tous, etc. Le texte de Kanafani, comme d'autres textes, même plus anciens, vient montrer qu'il y avait une conscience palestinienne très très précoce de dire non, non, on voit très bien la continuité entre notre dépossession économique et notre dépossession politique. Et de réinsister là-dessus et de dire que même si on a parfois une certaine bourgeoisie arabe ou palestinienne qui peut trouver un avantage dans la présence de cet appareil colonial, en fait, la masse d'entre nous, nous trouvons dépossédés économiquement et politiquement à la fois. Et c'est ça un peu ça. Donc le texte de Kanafi Fani vient dresser un peu le portrait de comment était la situation palestinienne à l'aube de la révolution de 1936, qu'on appelle aussi la grande révolte de Palestine, et de dire qu'il y avait des classes qui ont préparé cette révolution et qui étaient la classe des paysans, mais aussi la classe des travailleurs, qui était une classe de paysans sans terre, en fait, qui avait migré vers les villes, dépossédés par le mouvement sioniste et qui commençaient à travailler pour pas cher, etc. Donc il y avait un contexte économique en plus du contexte politique. Et c'est, voilà, c'est dans l'articulation des deux que se trouve l'intelligence du texte de Kanafani. Et je disais qu'il y avait d'autres voix de l'époque, et plus anciennes encore, qui exprimaient déjà cette continuité entre les deux.
Je voulais passer un peu du coup à 1948 et la Nakba. On a déjà parlé dans une autre émission, mais du coup, le but du colonialisme de peuplement, c'est de remplacer la population. Donc la Nakba, c'est la catastrophe. Ça veut bien dire ça en palestinien, si je ne me trompe pas. Et c'est la tentative, lors de l'État d'Israël, d'expulsion des Palestiniens en créant un moment de terreur et de tuerie. C'est là qu'Israël se constitue. Mais le territoire n'est pas totalement acquis par Israël, qui doit composer avec les Palestiniens, ceux qui ont réussi à rester sur le territoire. Ça se dure comme ça jusqu'en 1967, où là, Israël, en 1967, occupe les territoires qu'il n'a pas réussi à occuper, qui sont Gaza et la Cisjordanie. Mais là encore, les Palestiniens sont encore là, et pas totalement expulsés comme le voudrait Israël. Du coup, c'est quoi la stratégie coloniale d'Israël dans un premier temps? Est-ce qu'on peut parler de ça, la stratégie coloniale d'Israël ayant une population palestinienne présente sur ce qu'il considère, lui, comme son territoire? Et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait parler aussi un peu de comment s'organise aussi la résistance palestinienne à ce moment-là, dans ces périodes de 48 et après 67?
Alors, c'est bien de faire le lien entre ce qui se passe déjà après 48 et ce qui va se passer après 67 dans les nouveaux territoires occupés, donc de Cisjordanie et de Gaza, parce que y a plein de mécanismes qu'on retrouve déjà très tôt dans la gestion de ceux qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur. Les Palestiniens de l'intérieur, donc, ils sont à peu près 10 000 juste après 48, et ils vont, il va y avoir une croissance démographique, et donc aujourd'hui ils sont quasiment un peu moins de 2 millions. Ils représentent à peu près aujourd'hui 20% de la population en Israël. Et donc c'est des Palestiniens qui ont entre-temps, qui ont obtenu la citoyenneté israélienne.
Juste pour préciser, là on parle de... ce qu'on dit souvent, la Palestine de 48, c'est ce que les gens généralement habituellement appellent Israël.
C'est ça. Donc c'est des Palestiniens. C'est pour ça ici en Palestine, on les appelle les Palestiniens d'intérieur, c'est-à-dire que c'est des Palestiniens qui sont pas sortis de ce qui va devenir Israël et qui continuent à se revendiquer de l'appartenance d'un même peuple. Ils sont Palestiniens. Mais avec un destin qui diffère un peu des Palestiniens, soit réfugiés hors de la Palestine, soit qui se trouvent sous occupation militaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et donc ces Palestiniens-là, ils vont être marginalisés d'abord militairement, c'est-à-dire qu'ils vont être sous couvre-feu militaire pendant plusieurs années, civiquement parce qu'ils vont obtenir, ils vont avoir, il va y avoir un long moment avant qu'ils n'obtiennent la citoyenneté israélienne. Et jusqu'à aujourd'hui, on considère qu'ils sont citoyens de seconde zone parce qu'il y a tout un tas de droits auxquels ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas accès. Des droits économiques et sociaux, hein, principalement, qui en Israël passent par la participation dans l'armée et en fait, du coup, ils ne peuvent pas voilà, y accéder. Donc c'est des citoyens de seconde zone qui sont marginalisés et qui, du coup, vont constituer une main-d'œuvre pas chère dans les entreprises, dans l'économie israélienne. Et la stratégie israélienne à leur égard, elle est, je disais, elle est ambiguë et ambivalente plutôt. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses que les autorités israéliennes essayent de faire à la fois. D'une part, de les contenir, c'est-à-dire d'empêcher leur autonomie pour que cette autonomie économique ne puisse pas devenir une autonomie politique. Et donc, il va y avoir la volonté de créer une situation de dépendance tout le temps chez ces Palestiniens qui ne puissent pas avoir leur propre économie. D'un autre côté, il faut pouvoir aussi les lier à l'économie comme un moyen de ne pas de garder un contrôle sur cette population. On y reviendra peut-être un peu plus tard parce que c'est encore plus visible quand on parle de la Cisjordanie aujourd'hui. Mais donc il y a une logique de contrôle aussi par l'économie qui se fait. Et il y a aussi une logique de pousser à leur expulsion. Ça se fait aujourd'hui par des moyens beaucoup moins directs que, et beaucoup moins absolus que ce qu'on peut observer en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, mais ça va s'observer dans certaines zones du territoire. Par exemple, dans certaines parties de la Galilée, au nord, de la, au nord de, du pays, ou dans le Naqab, ce qu'on appelle le Negev en français, dans le sud du pays, où en fait on a des zones qu'Israël veut, sur lesquelles Israël veut mettre la main mise et veut vider de la population, et donc vont tout faire pour empêcher la vie, y compris sur le plan économique et social et culturel, dans ces zones-là. Donc ce n'est pas une expulsion du pays, mais c'est une expulsion de certaines zones habitées et de pousser les Palestiniens à se regrouper de plus en plus dans des espaces de plus en plus réduits. Et puis dans ces espaces de plus en plus réduits, il y a une logique de, d'encourager certaines violences, certaines corruptions qui font que la vie devient intenable en fait, pour ces gens-là. Et c'est, ça a été dit plusieurs fois par certains dirigeants israéliens, notamment Ben Gvir ou Smotrich, par exemple, qui sont assez connus aujourd'hui, qui disent qu'il faut rendre la vie intenable et invivable pour ces Palestiniens-là, pour eux aussi les pousser à quitter le pays. Parce qu'il y a tout un enjeu démographique toujours dans, dans ce colonialisme de peuplement et de remplacement, qui est que ces Palestiniens ne doivent pas représenter une proportion trop importante, sinon ils remettraient en cause le caractère juif de cet État et du coup l'existence de cet État colon. Donc ça, c'est pour les Palestiniens de 48. Pardon, c'est un peu long, mais du coup, on retrouve à peu près les mêmes logiques après 67. Ce qui se passe après 67, c'est que Israël va occuper de nouveaux espaces avec pour objet, c'était très clair dans les écrits avant 67, pour objet de conquérir de nouveaux territoires et de provoquer une nouvelle expulsion massive. Sauf que ce qui se passe en 67, c'est que les Palestiniens ont compris qu'en fait, quand on part du pays, eh ben, on n'est plus autorisé à y revenir, et donc ils ne vont pas sortir. Il va y avoir une expulsion, mais beaucoup moins importante en 67. Et donc Israël se retrouve au contrôle d'un territoire plus vaste, mais avec une population arabe beaucoup plus importante. Et il va y avoir quelques discussions sur le sort à réserver à ces territoires et à ces nouvelles populations. Et le débat va être tranché par le fait de ne pas annexer ces nouveaux territoires administrativement, de continuer à les occuper et de ne pas accorder du coup la citoyenneté à aux habitants palestiniens. En revanche, d'annexer leur économie d'une certaine manière. Et donc les territoires vont être raccrochés économiquement à Israël, ce qui, là on retrouve la logique d'exploitation qui revient avec force. C'est-à-dire que on a une économie israélienne qui en 67 est isolée dans la région et en manque de débouchés. Et ben, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza vont offrir ces débouchés, une économie israélienne qui va pouvoir vendre leurs produits dans les territoires de 67. Accéder à une nouvelle main-d'œuvre aussi pas chère grâce à ces Palestiniens qui vont venir travailler dans l'économie israélienne. Et tout un tas comme ça de logiques d'exploitation, les ressources, la terre, l'eau, etc., des minerais qui vont être trouvés. Donc on a une logique d'exploitation de ces territoires et d'intégration de l'économie sans accorder de droits politiques à ces Palestiniens qui resteront en fait non israéliens.
Et quand tu disais justement, oui, aussi débouché économique d'une économie qui est un peu isolée, ça me faisait penser à l'analyse économique de l'Empire français lorsqu'il avait cette économie, et notamment qu'en 1920, enfin, on a appris à l'école quand même que l'intérêt principal des colonies françaises, c'était d'être aussi le premier client de la France, en fait, de pouvoir vendre énormément de produits. Donc soit d'exploiter pardon, les ressources, de les ramener en métropole, de les transformer et de revendre bien plus cher, souvent aux colonies, des choses qu'ils pourraient faire aussi, aussi chez eux.
C'est bien ça, c'est complètement ça. En fait, on a, et je disais donc isolé, y a des fois je vais un peu vite, mais du coup une économie israélienne qui est isolée parce qu'à l'époque, les pays arabes ont instauré un boycott sur l'économie israélienne et avaient pris la décision d'imposer un boycott aussi indirect, c'est-à-dire que tout État, tout pays qui commerçait avec Israël était aussi boycotté par les pays arabes. Et en fait, ça faisait qu'on avait dans le monde tout un tas de pays du tiers-monde, notamment, qui ne commerçaient pas avec Israël. Et donc, Israël était principalement relié à l'Europe et aux Amériques et à l'Amérique. Ce qui fait qu'il y avait un vrai problème de débouchés. Les territoires palestiniens vont offrir ces débouchés. Et de l'autre côté, ils vont, donc offrir une main-d'œuvre, mais aussi offrir un capital. On va avoir des relations de sous-traitance qui vont se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une activité économique en Cisjordanie et à Gaza qui va se développer comme sous-traitant de l'économie israélienne dans le tissu, dans le textile par exemple, le vêtement, l'industrie du vêtement. Et aujourd'hui, ça va être dans plein de choses comme le secteur de la mécanique, etc. On a des secteurs comme ça qui sont des secteurs au service d'une économie israélienne, sous-traitante d'une économie israélienne qui perdure encore aujourd'hui.
Et aussi en se focalisant sur aujourd'hui comment c'est. Moi là, si j'essaie de retirer de l'argent en Palestine, en Cisjordanie, on me propose de pouvoir retirer en shekel, en dollars ou en dinar jordanien. Pourquoi il n'y a pas une monnaie palestinienne ?
Alors, il y a une étape supplémentaire dans l'histoire à faire, c'est l'étape des accords d'Oslo en 93. Donc juste peut-être pour redresser un peu le décor, la Cisjordanie avant 67, donc après 48, est annexée à la Jordanie, pays voisin, tandis que la bande de Gaza n'est pas annexée mais administrée par l'Égypte après 48. Et donc ce qui va se passer, c'est que la monnaie qui existait au départ, qui était la livre palestinienne à l'époque du mandat, disparaît avec le mandat, et en Cisjordanie on va utiliser le dinar jordanien et à Gaza on utilisera le jenet égyptien. Après l'occupation de 67, les Israéliens vont imposer en plus de ça leur monnaie à eux, le shekel israélien, et donc on va avoir un contexte plurimonétaire où selon l'usage c'est telle ou telle monnaie qui est utilisée, qui est privilégiée. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a encore, pour tout ce qui va être immobilier, une voiture, du bétail, des prix qui sont en dinars jordaniens, par exemple en Cisjordanie, tandis que d'autres produits de la vie courante, la plupart du temps sont, sont libellés en shekels. Et on a aussi le dollar américain qui est entré entre-temps. Et ce qui se passe, c'est que... Donc ça, c'était le contexte après 67, c'est les territoires occupés. En 93, au moment de la création d'une autorité palestinienne, en fait... Il y a aussi création de tout un d'institutions, et donc notamment la création d'une autorité monétaire palestinienne qui fait office de banque centrale palestinienne ici, mais qui n'a pas le pouvoir de création monétaire. Ça, c'est une décision israélienne, c'est-à-dire que c'est les Israéliens qui ont interdit la création d'une monnaie palestinienne et qui continuent encore à ce jour. L'autorité palestinienne essaye à demander plusieurs fois à ce qu'elle puisse créer sa propre monnaie, et les Israéliens refusent. Et maintiennent le fait que il n'y a pas de création, donc en fait vous usez des monnaies qui ont cours dans les banques israéliennes. Et en fait les banques palestiniennes, elles dépendent du circuit monétaire israélien, c'est-à-dire qu'en dernière mesure, elles reviennent à la banque centrale israélienne également, à travers cette autorité monétaire palestinienne qui fait office d'intermédiaire en fait.
Mais est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur aussi les accords d'Oslo ? Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment Israël qui contrôle tout. Et ce qu'on a appelé le processus de paix, j'ai l'impression que c'était une espèce de processus de soumission totalement d'une économie par rapport à une autre.
Alors aujourd'hui, c'est plus facile de le dire. C'était un écran de fumée, ce processus. Et effectivement, il a permis de légitimer l'occupation de ces territoires en offrant une espèce de vitrine, un semblant de symétrie avec un peu cette idée que ça y est, il y avait enfin une entité palestinienne qui avait été reconnue, ce qui est cette autorité palestinienne qui s'est créée. Sauf que dans les faits, Israël, dans les textes déjà, Israël avait tout fait pour garder le contrôle de tous les éléments de souveraineté sur ces territoires. Et donc, en fait, par exemple, le contrôle des frontières est entièrement israélien. Il n'y a pas de commerce qui peut se faire sans passer par une frontière israélienne. En fait, même les frontières entre la Cisjordanie et la Jordanie, par exemple, en fait, on passe par un point de contrôle israélien, et le point de contrôle palestinien est purement, purement formel, finalement. Donc les Palestiniens n'ont pas le contrôle de leurs frontières, et ça veut dire que pour commercer, il faut passer par... il faut obtenir une autorisation de la part des autorités israéliennes. Une grosse partie du commerce aujourd'hui palestinien vers l'extérieur se fait en passant par les ports et aéroports israéliens. Une petite partie passe directement via la Jordanie ou à une certaine époque via l'Égypte, mais ça n'a pas duré. Et donc, on a une dépendance totale sur le plan commercial. Mais en fait, donc on a parlé un petit peu plus tôt là du plan monétaire et financier, donc les banques aussi. C'est vrai dans tous les domaines de l'économie palestinienne. Et aujourd'hui, on pourrait même douter de pouvoir parler d'une économie palestinienne. Cette économie palestinienne, on l'a fait exister dans les chiffres, c'est-à-dire qu'on appelle certaines activités économie palestinienne. Mais si on regarde dans la réalité, on est beaucoup plus dans un appendice de l'économie israélienne que dans quelque chose de vraiment autonome, et on n'est pas dans une relation de symétrie et d'égal à égal entre deux économies. On est vraiment dans une économie, voilà. Pour donner quelques idées comme ça, puis je reviendrai sur Oslo, mais pour donner une idée, on a aujourd'hui un Palestinien sur cinq qui travaille dans l'économie israélienne, c'est énorme. Et donc quand les Israéliens décident de ne plus permettre à ces travailleurs-là d'arriver jusqu'à l'économie israélienne, c'est toute une société qui se retrouve... en crise et en asphyxie. Y a d'autres...
Juste me permets, du coup, quand tu dis travailler dans l'économie israélienne, tu veux dire aussi aller sur le territoire qu'a déterminé Israël, qui se dit comme État israélien, et du coup partir de Cisjordanie et aller travailler en Israël. Donc il y a une personne sur cinq qui fait ça.
C'est ça, mais alors c'est la majorité, quand je dis l'économie israélienne, c'est volontairement flou, c'est pour englober deux situations, soit ceux qui vont dans le territoire, ce qui est actuellement Israël, pour travailler là-bas, soit c'est du travail directement dans les colonies qui se trouvent en Cisjordanie. et donc qui ne sortent pas même de Cisjordanie, qui restent dans les colonies, mais qui travaillent dans une économie israélienne. On a cette situation. Donc là, c'était un peu, on pourra y revenir, mais c'était pour dresser un peu le tableau de à quel point cette économie aujourd'hui est dépendante, ce qu'on appelle l'économie païtienne, à quel point elle est dépendante de l'économie israélienne. Et Oslo, effectivement, du coup, a permis d'institutionnaliser ça. Les textes parlent d'une union commerciale et douanière, c'est-à-dire que les Palestiniens ne peuvent pas même fixer de taxes sans en revenir aux autorités israéliennes, ne peuvent pas décider de leurs douanes, ne peuvent pas décider des produits qu'ils veulent importer. Les producteurs palestiniens doivent demander des autorisations aux autorités israéliennes pour importer une machine pour leurs usines. Donc toute l'industrie est complètement bloquée, aussi par le bon vouloir israélien. Donc voilà, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui, au quotidien, peuvent marcher avec des grincements et puis peuvent s'arrêter tout à coup juste parce que l'Israélien décide que ben non, ça ne marchera plus. Voilà. Y a peut-être un dernier point, je ne sais pas si tu comptais y venir, mais par exemple, étant donné que les Palestiniens n'ont pas le contrôle des frontières et n'ont pas le contrôle des douanes, dans les accords, c'est Israël qui récupère les douanes sur la consommation palestinienne. C'est-à-dire que tout ce qui est finalement importé via Israël pour finir chez le consommateur palestinien, l'accord est que c'est Israël qui collecte les taxes et qui les reverse à l'autorité palestinienne mensuellement. Depuis 2 ans, on entend beaucoup parler de ça parce que c'est source de chantage permanent. C'est-à-dire que les Israéliens ont tourné ce droit en une source de chantage et de dire à l'autorité palestinienne, si vous ne faites pas exactement ce qu'on vous demande de faire, ou si vous payez des salaires qu'on ne voudrait pas que vous payiez, eh ben on coupe ces fonds pour vous. Ce qui fait qu'on a une autorité palestinienne qui est constamment exposée au chantage et en crise, parce que même sa source budgétaire principale, sa première recette budgétaire, est aujourd'hui entre les mains des Israéliens.
Oui, du coup, en fait, effectivement, ce que moi j'avais, ce que j'avais compris, c'est que, comme tu le dis, c'est Israël qui collecte toutes les taxes qui passent par la frontière, et elle fait du chantage à l'autorité palestinienne qui représente un espèce de gouvernement en Cisjordanie, et qui paye énormément de fonctionnaires d'écoles, police et autres, comme le ferait un peu n'importe quel gouvernement d'un État. Mais j'avais cru aussi comprendre que depuis le 7 octobre, ils avaient dit, du coup, c'est un peu à cause de vous si on doit faire la guerre, et qu'ils avaient coupé une partie de l'argent. Et du coup, j'ai l'impression que suite à ça, si je me trompe, mais l'autorité palestinienne, effectivement, je crois que les salaires, ils ont diminué de 50% pour la plupart, sauf un peu pour les policiers, où ça doit être peut-être 70%.
Alors c'est ça, et alors l'explication donnée par Israël, c'était que en fait on est dans un contexte dont la Cisjordanie est coupée politiquement de la bande de Gaza. Il y a une division interne palestinienne, mais l'autorité palestinienne continue à payer certains salaires dans la bande de Gaza, et qui sont des revenus très très importants pour la population qui se retrouve là-bas, avec des familles entières qui dépendent de ces salaires finalement, sous blocus donc depuis 2007. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Israël, après le 7 octobre 2023, va demander à l'autorité palestinienne de ne plus payer de salaire à Gaza, et donc de demander à l'autorité palestinienne d'acter l'abandon de cette partie du territoire et de cette partie de la population. Ce que l'autorité palestinienne va refuser dans un premier temps assez vigoureusement, puis finalement va finir par accepter, sans trop le dire. Mais ça va être suffisant pour Israël pour dire, on ne verse plus tout ce qu'on estime être de la part de ce qui va revenir à Gaza. Et c'est une estimation qu'Israël fait par lui-même. Et ampute la partie qui revient à l'autorité palestinienne. À côté d'une amputation, il y a un retard constant dans le versement de ce dû. Ce qui fait qu'on a une autorité palestinienne qui se retrouve amputée donc d'une grosse partie de ses recettes, plus des retards qui s'accumulent, qui font qu'elle va aller s'endetter pour pouvoir payer certains frais, qui fait qu'elle se retrouve dans une situation encore plus difficile de crise et de banqueroute. Donc on a effectivement cette autorité, déjà avant le 7 octobre, était bien en mal de payer ses salaires aux fonctionnaires. Il y avait déjà des retards réguliers et des salaires amputés. Depuis le 7 octobre, c'est devenu une constante. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des personnes qui n'ont pas touché, enfin, qui touchent que 50% de leur salaire et le touchent avec parfois 6 semaines de retard, voire plus. Donc on a un gros retard qui va... Je donnais un chiffre tout à l'heure de dire on a un Palestinien sur 5 qui travaille dans l'économie israélienne. On a à peu près un Palestinien sur 4 qui travaille pour l'autorité palestinienne. En fait, c'est pas du tout comme n'importe quel gouvernement dans un autre pays. On est dans une situation où en fait, c'est une économie sous perfusion. C'est aussi ça qui me faisait dire qu'on n'a pas une vraie économie palestinienne. On a une économie qui est complètement bouffée par le colonialisme, qui est complètement empêchée par le colonialisme et qui, du coup, ne survit que parce qu'il y a des salaires qui sont payés par l'autorité palestinienne, sachant que les deux grosses sources de recettes de son budget, c'est ces taxes-là sur la consommation et d'un autre côté l'aide internationale, qui a beaucoup diminué ces 15 dernières années, mais qui reste quand même assez conséquente. Et donc on a une économie sous perfusion qui a aujourd'hui, enfin qui depuis le 7 octobre est bien bien mal en point, mais qui déjà en fait n'était pas dans sa meilleure forme avant le 7 octobre.
Le salarié aussi palestinien, j'ai l'impression que lorsqu'il va travailler en Israël, par exemple, il n'est pas payé de la même manière. C'est pas le même type de travail qui lui est proposé. Que c'est beaucoup un travail très dangereux qu'on appelle les Palestiniens travailler. Et que depuis le 7 octobre, il y a eu un blocage, en tout cas, de ces gens pour pouvoir aller travailler en Israël. Et voilà, je voulais un peu savoir si tu pouvais nous dire des choses là-dessus et savoir ce qu'il en est aujourd'hui.
Alors effectivement, on avait à peu près, il n'y a pas de chiffre exact, hein, mais on avait à peu près 250 000 Palestiniens. Et donc je disais, ça fait à peu près un quart de la population active de la Cisjordanie qui travaillait dans l'économie israélienne, un cinquième pardon, de la population active en Cisjordanie qui travaillait dans l'économie israélienne avant le 7 octobre. Et qui percevaient des salaires qui, en fait, étaient plus élevés que les salaires perçus en Cisjordanie. Donc, pour un travailleur palestinien, c'est toujours plus intéressant d'obtenir son permis de travail et d'aller travailler dans l'économie israélienne. Mais qui représente à peu près la moitié de ce que toucherait son homologue israélien pour le même poste, pour la même fonction.
Ah oui, 50%. Ils sont payés 50% moins qu'un Israélien pour le même travail.
C'est ça, c'est des moyennes, mais qui existent, qu'on trouve dans les rapports de l'Organisation internationale du travail. Donc c'est un phénomène qui est documenté, assez bien documenté quand même. Ces mêmes rapports de l'Organisation internationale du travail ou de l'ONU parlent aussi de situations de travail qui sont parmi les plus dangereuses au monde, c'est-à-dire que le nombre de morts sur chantier et le nombre de blessés sur chantier est parmi les plus élevés au monde. Donc on a des conditions de travail qui sont effectivement très très dures, avec très peu de protection, pas de protection sociale ou médicale équivalente à ce que peut avoir un Israélien. Et malgré tout, étant donné que le salaire est plus important que le salaire en Cisjordanie, eh ben, ça reste un moyen très très efficace, c'est-à-dire qu'on continue à attirer de la main-d'œuvre très très forte, encore une fois dans un contexte où je disais l'économie en Cisjordanie est complètement empêchée, où c'est très difficile d'avoir une activité économique digne de ce nom. Et donc on a plein de Palestiniens qui ont abandonné leurs terres, abandonné leurs petites usines ou entreprises pour aller travailler dans cette économie-là et être exploités en tant que main-d'œuvre bon marché dans l'économie israélienne. On voit bien le vice de ce système, c'est que on va avoir un discours israélien qui met en avant le fait que, bah, regardez, le bienfait de ce colonialisme israélien, le bienfait de l'occupation et d'Israël, c'est que on fait travailler des Palestiniens, donc les Palestiniens aussi profitent de ce colonialisme. Inversement, on a aussi des gens aujourd'hui en Europe qui vont dire, bah, voyez, il ne faut pas boycotter l'économie israélienne parce que les Palestiniens en profitent. Mais en fait, ce qu'on est en train de cacher, c'est que on est dans une exploitation systémique avec une asymétrie, une vulnérabilité qui est nourrie, qui est entretenue pour permettre à ce système de se maintenir. Et donc, on est dans une situation où le Palestinien est rendu vulnérable pour être plus docile et accepter ses salaires bon marché. J'aimerais ajouter peut-être une autre chose, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une logique d'élimination propre au colonialisme de peuplement, une logique d'élimination et de remplacement. On a parlé aussi d'une logique d'exploitation qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans le système capitaliste, d'essayer d'exploiter la main-d'œuvre et les ressources, etc. Et on a aussi une logique de contrôle très très forte, là, qui est bien visible quand on parle des travailleurs. C'est que pour qu'un travailleur palestinien puisse obtenir un permis pour travailler en Israël, il doit passer par tout un tas de procédures et
Je te coupe un instant, d'ailleurs, juste pour revenir sur ce permis avant que tu ailles plus loin, c'est que ce permis, il coûte cher, il coûte quand même 650 euros et c'est pour un mois, c'est ça, non?
alors ça c'est pas le prix du permis, c'est le prix, là on rentre dans le système de contrebande qui peut et qui existe, où on a aussi une contrebande de permis, effectivement, où des permis sont revendus. Donc la personne qui veut pas passer par la voie officielle va pouvoir acheter un permis dans la contrebande, et ça coûte quasiment un tiers d'un salaire, en fait, mensuel. Donc effectivement, c'est très très cher.
Mais tu voulais revenir sur la logique de contrôle à travers l'économie.
C'est ça. Alors du coup, on a au fil des années toute une infrastructure de contrôle qui s'est mise en place, les checkpoints, le contrôle militaire, etc. Mais à ça s'est ajouté aussi un contrôle aujourd'hui par digital ou par l'informatique, où en fait, pour pouvoir obtenir ce permis, un Palestinien doit remplir un formulaire en ligne sur une plateforme et renseigner voilà, mettre toutes ces informations avec des questions qui vont aussi avoir trait à ses activités extra-professionnelles. Ce formulaire va être étudié non pas par des employeurs, mais va être étudié par les renseignements de la sécurité israélienne, donc les renseignements. L'autorisation va être d'abord une autorisation de sécurité avant d'être une autorisation, avant qu'il y ait une mise en contact avec des potentiels employeurs. Et ce permis peut être révoqué à n'importe quel moment si ce Palestinien, et donc en fait le Palestinien doit avoir un casier, un dossier vierge d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'ait jamais participé à quelconque activité qui remette en cause l'occupation. Pas d'activité politique, pas d'activité syndicale, pas de participation même à des activités socioculturelles qui pourraient remettre en cause l'occupation. Et on va avoir, c'est un outil, encore une fois, dans un contexte d'économie ravagée, En fait, c'est un outil de contrôle puissant, c'est-à-dire qu'on a des personnes, mais pas seulement des personnes, aussi leurs familles et parfois des villages tout entiers, qui vont se tenir à cette discipline de montrer patte blanche, de ne faire aucun écart pour ne pas se voir privé du permis de travail en Israël.
Juste ouais, pour voir si j'ai bien compris sur ce que tu dis, c'est que, parce qu'il me semblait avoir lu ça aussi dans certains de tes textes, c'est que même aussi dans un système de sous-traitance où des fois on va demander peut-être à des entreprises palestiniennes de, pour que ça aille plus vite, pour je sais pas, le passage des frontières, pour que la marchandise qui est souvent malmenée ne le soit pas ou passe plus vite parce que c'est de la marchandise, ça peut être de la nourriture, donc si elle reste bloquée à un moment à la frontière pendant plusieurs jours, c'est embêtant. Donc on va dire, on fait la sous-traitance avec les Palestiniens. Et en échange, vous vous occupez du service un peu de sécurité, mais que ce service de sécurité, il va concerner pas seulement la personne qui va être embauchée, mais aussi, en fait, du coup, comme tu dis, sa famille, le village où est-ce qu'il est, et est-ce que ses oncles, ils ont une activité avant, et que ça va exclure aussi peut-être une partie des gens qui sont déjà, je sais pas, militants, qui ont une volonté d'autonomie ou de création de la Palestine.
C'est ça. Alors effectivement, on a ce phénomène qui est assez nouveau, des corridors logistiques qui ont été créés. Alors je reviens un peu, je disais tout à l'heure que pour que les Palestiniens n'avaient pas le contrôle de leurs frontières. Et donc, en fait, pour un exportateur palestinien, ce que ça veut dire, c'est que au moment d'exporter sa marchandise, il doit amener sa marchandise dans un camion palestinien. Donc c'est une étape en plusieurs temps. Il y a un camion palestinien qui vient, qui charge la marchandise dans l'entreprise, qui l'emmène jusqu'au checkpoint, le passage de frontière avec Israël, qui décharge la marchandise, qui va être ausculté par les soldats et qui va parfois passer plusieurs heures, être maltraité, malmené, etc., pour être rechargé sur un camion israélien de l'autre côté pour être amené jusqu'au port, par exemple. Et les Israéliens vont créer un système VIP de permettre à certaines entreprises palestiniennes de pouvoir charger directement sur des camions israéliens qui vont pouvoir traverser le checkpoint sans aucun contrôle et arriver directement jusqu'au port, à condition que dans la cour de l'entreprise palestinienne soient installées des caméras directement connectées au checkpoint. Et que l'entreprise fournisse la liste de tous ses employés aux soldats, et que du coup, il soit là aussi surveillé qui a le droit de travailler, qui n'a pas le droit de travailler, quel nom peut poser problème, etc. Que le camion soit équipé d'un système GPS pour qu'il puisse être suivi tout le long de son trajet, etc. Et donc on a là donc un contrôle de sécurité, mais où on voit comment il s'articule à une logique de contrôle économique et en fait de commencer à remettre en cause la souveraineté palestinienne sur ces espaces, c'est-à-dire qu'on est dans des entreprises palestiniennes qui se trouvent en pleine Cisjordanie, dans des zones A palestiniennes et qui en fait vont devoir quand même se plier aux règles de sécurité israéliennes et embaucher selon le bon vouloir israélien pour pouvoir bénéficier de cet avantage VIP. C'est pas un système qui est très répandu encore, mais c'est quand même un système qui a vocation à se multiplier pour permettre à une certaine économie de fonctionner. Et c'est l'économie qu'Israël jugera bon de faire fonctionner, en fait. Il y a une logique aussi économique, c'est-à-dire que les entreprises qui peuvent faire concurrence aux entreprises israéliennes n'obtiendront jamais ce type de système VIP, alors que les entreprises sous-traitantes, et en fait c'est ça qui s'est passé, c'est des entreprises sous-traitantes principalement, dans certains secteurs dont leurs principaux clients sont des clients israéliens, et en fait vont être encouragés à bénéficier de ce système. Et voilà, il y a encore une fois, c'est une moyen de plus d'ingénierie économique, de comment est-ce qu'on rattache cette économie palestinienne, et avec ça, comment est-ce qu'on décide pas seulement de l'économie, mais aussi de la volonté politique, sociale, culturelle, etc. Il y a toute une ingénierie qui est mise en place par ce biais.
Et juste du coup, dans ce que tu expliquais, j'ai vraiment l'impression que tout ce contrôle économique de l'État d'Israël sur l'économie palestinienne est un moyen d'éviter toute révolte palestinienne. Est-ce que tu as des exemples du coup de de tentatives ou de choses, comment les Palestiniens essayent, eux, de continuer à lutter, et aussi sur le terrain économique. Est-ce qu'il y a eu, soit dans l'histoire, soit maintenant aujourd'hui, encore des exemples de résistance économique palestinienne?
En fait, il y en a beaucoup. Historiquement, je disais déjà que voilà, le texte de Kanafani, comme d'autres voix avant lui, faisait le lien entre le sort économique et le sort politique de la Palestine et des Palestiniens, et donc encourager la réflexion et l'initiative vers la création d'autonomie, d'une autonomie économique, et d'une autonomie économique qui devait servir de base à l'autonomie politique. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a différents slogans, différents mots d'ordre, différentes façons de le formuler, mais finalement, le fait de lier ces deux aspects-là, je crois que c'est vraiment ça qui fait le cœur, c'est-à-dire lier l'autonomie économique à l'autonomie politique. Lier la libération économique à la libération politique, lier la résistance économique à la résistance politique. Enfin, ouais, tu vois, c'est cette articulation-là qui est importante. Et on a différents exemples dans l'histoire. Il y a durant la première intifada, ça a été quelque chose de très... de très fort et qui continue à marquer la conscience collective palestinienne de ces moments où les Palestiniens ont refusé d'aller travailler dans l'économie israélienne, ont boycotté l'économie israélienne, ont refusé de payer des impôts. À l'époque, c'était avant Oslo, donc il n'y avait pas d'autorité palestinienne, les impôts étaient payés aux autorités israéliennes, et donc on refusait de payer les impôts, boycotter les marchés israéliens, etc. Et la répression a été très dure. Ça a aussi marqué la conscience israélienne, c'est-à-dire que les Israéliens ont développé tout plein de moyens de contre-insurrection, aussi par l'économie, pour empêcher ce type de mobilisation dans l'économie palestinienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu en Cisjordanie quelque chose de beaucoup plus éclaté, c'est-à-dire qu'on a des initiatives qui se font, mais à des niveaux beaucoup plus micro. On a une autorité palestinienne qui est complètement pieds et poings liés et qui... d'une certaine façon, a fini par intérioriser cette situation de dépendance et donc ne cherche même plus à s'en libérer. Mais on a des initiatives locales plus micro, de coopératives agricoles qui se mettent en place et de tout un tas d'autres types d'initiatives aussi. Souvent, les coopératives, on en parle parce que ça fait c'est un joli projet, quoi. Mais il y a aussi finalement des patients qui, au quotidien, dans leur... épiceries, dans leur mécanique ou je ne sais pas quel type d'entreprise, ont cette idée qu'ils essayent de participer à quelque chose de plus que juste rapporter un revenu à la maison, mais de faire corps et de créer du collectif et d'entraide et de solidarité et de pouvoir, par exemple, verser des pensions aux familles de prisonniers parce que la personne qui travaillait n'est plus là, ou de martyrs aussi, etc. Donc on a des liens de solidarité qui débordent en fait à chaque fois l'entreprise privée, au sens où on a souvent l'habitude de la voir. Et puis on a un exemple sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'exemple de la bande de Gaza, où pour le coup, après le blocus, il y a eu... Donc après 2007, Israël impose un blocus sur la bande de Gaza très 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 très, très dur, mais qui a aussi finalement permis, mais c'est aussi parce que le gouvernement sur place avait ça aussi comme ambition, de créer une autonomie, d'une économie en autarcie, et finalement de revenir sur une agriculture destinée aux besoins locaux, d'une industrie, même si un peu fragile, mais aussi destinée aux besoins locaux. Et donc, avec cette idée-là, et des slogans affichés de, encore une fois, lier l'autonomie économique à l'autonomie politique, et de dire en fait Israël, mais pas seulement Israël, même la communauté internationale se saisit tout le temps de l'instrument économique et financier pour nous amener à accepter des décisions qui vont contre l'intérêt du peuple palestinien, et il faut absolument qu'on puisse se libérer économiquement et financièrement pour ne plus être dépendant de décisions qui nous viennent d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est... c'est frustrant d'en parler comme ça, parce que c'est quelque chose qui, au fond, est comprise de tous les Palestiniens, mais n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et du coup fait que plein de gens s'accommodent de cette économie de perfusion, de dépendance dont je parlais, dont j'ai parlé un peu tout le long aujourd'hui, acceptent de devoir prendre leur salaire de l'autorité palestinienne ou d'aller travailler en Israël, etc. Mais c'est parce que, il n'y a rien de suffisamment systémique pour permettre de sortir aujourd'hui de cette dépendance. Et donc, finalement, on est un peu tous pris dans cette dépendance un peu malgré nous. Les